toi, tu vas me tailler les carottes en julienne, brosser les champignons et tourner les artichauts. Et n'oublie pas les salades cette fois.
Ça marche. Faut pas que je traîne. Il est exigeant le sous-chef. Mais il a raison. À mon niveau, je participe aussi à la réussite du resto. On est une équipe, quoi.
Vous êtes bons, les gars? Tout va bien?
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Il y a 2 ans, en mai 2022, ouvrait à Dijon la Cité internationale de la gastronomie et du vin, avec pour ambition de célébrer l'art de vivre à la française, reconnu par l'UNESCO en 2010. 1700 m² d'exposition, un village gastronomique avec son bar à douceur, son manège à moutarde, sa planche à fromage et sa librairie gourmande, des expositions permanentes et temporaire avec d'ailleurs jusqu'en janvier 2025 une immersion théâtrale dans l'univers du restaurant, autant de raisons pour que Les Bonnes Choses aillent voir de plus près à quoi cela ressemble. Première étape avec Catel Lecard du pôle culturel. Bonjour Catel Lecard.
Bonjour Caroline.
Déjà première question, la cité a pour ambition de raconter et de faire vivre les valeurs reconnues par l'UNESCO du repas gastronomique des Français et des climats du vignoble bourguignon. Donc ma première question est toute simple, Catel Lecard. Pourquoi à Dijon ?
Pourquoi cette magnifique cité à Dijon ? Parce que c'est vrai que Dijon, aussi en tant que capitale de la Bourgogne, est un lieu de culture alimentaire et gastronomique, avec un patrimoine aussi assez développé. Dijon, qui est la capitale des Ducs de Bourgogne, où déjà on avait aussi une richesse au niveau gastronomique, est toujours très active dans la gastronomie et aussi dans la valorisation de ses vins et de la production de ses vins. La cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon met en avant tout ce patrimoine-là et le fait vivre aussi, surtout avec différents acteurs autour de nous.
Oui, et en particulier avec un pôle culturel. Vous en êtes l'une des responsables, vous êtes chargée des expositions ici. Et en l'occurrence, il y a plusieurs expositions. Il y a des expositions permanentes et il y a des expositions temporaires. On est à l'entrée d'une exposition temporaire qui est celle qui a ouvert ses portes en décembre 2023 et qui se prolonge jusqu'en janvier 2025. Elle s'intitule « Et si on allait au restaurant ?» C'est ça ?« Et si on allait au resto même ?»
Et si on allait au resto ? Donc c'est comme une invitation à nos visiteurs de venir découvrir l'histoire du restaurant, mais aussi comment ce lieu se place dans notre société et tout ce qui s'y joue aussi comme enjeu actuel. Donc on y met aussi en avant tous les métiers.
On y va ?
On y va.
Vous nous faites la visite ?
Alors, on entre dans cette exposition où, au cœur de cette exposition, on a recréé notre restaurant imaginaire qui s'appelle le Tous en scène, où on y voit des silhouettes de clients, de serveurs, de cuisiniers et toute une ambiance sonore aussi de cuisine et de salle. Donc, on a ce lieu animé et tout autour de ce restaurant, on aborde différentes thématiques en lien avec le restaurant. Tout d'abord, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on va au restaurant ? C'est quelque chose d'assez habituel maintenant, mais c'est un lieu qui n'existait pas il y a encore 250 ans. Et donc, on y voit aussi ce qui fait le restaurant, en fait. Qu'est-ce qui définit le restaurant aussi ? Et donc, dans cette première partie, qu'on a appelée « manger hors de chez soi », parce que finalement, aller au restaurant, c'est quitter la cuisine, on va dire, familiale, le foyer, pour s'aventurer dans un lieu de restauration. Souvent, on y souhaite découvrir des nouvelles saveurs, ou sinon parce qu'on n'a pas envie de cuisiner, qu'on n'a rien dans notre frigo. Et donc, on y découvre un petit peu les codes du restaurant.
Avec une grande diversité aussi des typologies de restaurants, de la guinguette au bistrot, du restaurant gastronomique au café, c'est tout ça qui est représenté ici.
Oui, on a montré la diversité. Alors, on a ce mur très coloré avec différentes anciennes enseignes qu'on a imaginées, le restaurant étoilé, le restaurant routier, on a le restaurant de montagne, espagnol, etc.
Donc, on va les donner, hein, ouais. Chez Michel, les délicieux, Dal Salvatore, l'expérientiel, le grill beef, la table des saveurs, etc. On voit bien, ça résonne bien à l'oreille.
Voilà, ça permet de rentrer dans ce, de nous faire un petit peu saliver aussi, hein, et de se dire tiens, de quoi est-ce que qu'est-ce que je mangerais bien ce midi, et voilà, où est-ce que quel restaurant, dans quel restaurant j'aimerais bien aller.
Alors, vous nous avez dit, qu'à tel le quart, que le restaurant n'avait pas une histoire si longue. De fait, et on se souvient du livre de l'historien Antoine Debac sur l'histoire des restaurants, il me semble que le premier restaurant date de la fin du XVIIIe siècle. C'est cette histoire que vous mettez en scène ici, dans l'exposition.
Oui, on a toute une partie qui remonte le fil du restaurant et on se situe à peu près vers 1765.
C'est plus précis.
Voilà, c'est très précis, hein, une vingtaine d'années avant la Révolution française, où on a un restaurateur qui se nomme Mathurin Rose de Chantoiseau. Alors, il est restaurateur, mais aussi il est aussi rédacteur d'un almanach sur les commerces de bouche, où on voit apparaître à la catégorie, on va dire, restaurateur, son propre restaurant, qui était une maison de santé, en fait, puisque les premières formes de restaurant, on y sert des bouillons qui restaurent le corps, qui redonnent des forces. Donc, ça ne s'appelle pas encore restaurant, mais on y sert des plats qui sont restaurants, qui nous redonnent des forces.
Et à partir de là, vous avez montré comment, du premier restaurant qui n'était pas encore un restaurant de Mathurin Rose de Chantoiseau, on est passé à un certain nombre de restaurants, d'abord dans la capitale. Hein, il faut dire que c'était d'abord à Paris, et d'ailleurs dans un quartier bien précis qui était le quartier du Palais Royal.
Le restaurant, en fait, et avant tout, va trouver son public aussi au niveau d'une certaine classe aisée. Hein, voilà. Alors, on n'a pas encore fait la Révolution, mais c'est les futurs bourgeois aussi, voilà, qui vont se précipiter un petit peu dans les différents restaurants qui essaiment à travers toute la capitale. Mais le lieu à la mode à l'époque, c'est effectivement les galeries du Palais Royal, qui sont des lieux de loisirs, de jeux, de plaisirs.
Là, c'est joli ce que vous avez fait, parce que c'est très... Alors, de toute façon, toute l'exposition est très théâtrale. Hein. C'est vraiment le restaurant comme une mise en scène.
Exactement.
Et complètement immersive. On n'a pas beaucoup de son encore. L'exposition n'est pas ouverte, mais il y en a plus quand c'est ouvert. Mais surtout, c'est aussi très, très visuel.
Oui, on a recréé des petites scénettes à partir d'images d'archives des anciens restaurants de Paris sous forme de diorama. Donc on a comme des petits théâtres miniatures et mis en scène et mis en lumière en trois dimensions comme ça, dans lesquelles on peut s'immerger un petit peu découvrir l'ambiance de l'époque.
Donc les trois frères provençaux. Ouais. Le café anglais, c'est des vrais restaurants d'époque, hein, que vous avez créés, avec les vrais noms.
Ouais, tout à fait. Alors, les trois frères provençaux qui étaient au Palais Royal, le café anglais, comme d'autres restaurants qui sont ouverts au niveau des grands boulevards, où là, on voit apparaître aussi des cabinets privés avec des dames de compagnie, ou pour faire aussi des repas plus politiques, d'affaires, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de députés aussi à l'époque qui vont dans les restaurants aussi. Donc, on voit tous ces lieux de vie. Ces restaurants ne sont pas vides. On a différents clients qui sont mis en scène dans ces petits théâtres.
Et derrière vous, Catel de Car, vous disiez que la révolution n'avait pas encore eu lieu, mais il y a quand même une révolution en cuisine au moment où naît le restaurant. C'est la carte. La carte, elle n'a pas toujours existé.
Non, dans les premières maisons de santé, on pouvait quand même choisir quelques plats, mais qui n'étaient pas forcément affichés. Et là, on arrive avec ces premier restaurant qui se développe vraiment avec de ce qu'on appelle des placards de restaurant. Donc c'était des cartes qui font à peu près 40 cm par 60 qui étaient placardées sur les devantures de restaurant et on y voit écrit en tout petit à peu près 200 plats différents au choix.
200
à peu près.
Là on est face à un, c'est vraiment un format journal, hein, il faut se représenter la chose. Ben justement, c'est la carte des trois frères provençaux, restaurateur Palais Royal, Opéron numéro 3, déjeuner et dîner, avec effectivement une liste de plats extrêmement longue.
Oui, alors on a par exemple, alors tout est bien catégorisé, on a les différentes sortes d'entrées, que ce soit les hors d'œuvre, de volaille, des entrées de pâtisserie, alors là plutôt des plats, des pâtisseries salées, mais les viandes aussi qui sont différenciées, le mouton, le poisson, le veau, les entremets de légumes, de douceurs, et on a en plus les desserts, en plus des entremets de douceurs, voilà, et puis évidemment toutes les boissons, vin rouge, vin blanc, les liqueurs, et on peut en lire certains. Par exemple, l'aloyau braisé aux pommes de terre ou à la sauce, qu'on pourrait accompagner, pourquoi pas, d'artichaut frit. c'est assez original.
Et en dessert, on pourrait prendre un fromage, hein. Il y a des fromages de Gruyère ou de Neuchâtel, mais on a aussi des chinois au sucre ou à l'eau de vie, ou les trois, c'est écrit, ou les groseilles de bar avec le petit pot.
Voilà, et puis un petit accompagné d'un chablis, voilà, ce sera parfait.
Cité de la gastronomie et du vin. Et d'ailleurs, on est à Dijon, et à Dijon, l'un des premiers restaurants s'appelait les Trois Faisans, aux Trois Faisans, qu'a-t-elle le cas, et vous avez reconstitué une table dans la salle de ce restaurant avec une vue sur Dijon.
Oui, on se situe à l'actuelle place de la Libération et qui est la place d'Armes à l'époque. On est sur cette place semi-circulaire. Et on a un des restaurants qui s'appelait Aux Trois Faisans, tenu par Henri Racouchot, un restaurateur assez connu et qui proposait des très bons plats. Et on a une certaine américaine qui s'appelle Marie-Frances Kennedy Fisher, qui a une vingtaine d'années, qui arrive de sa Californie natale avec son mari, son fraîchement marié. Et il découvre la gastronomie française dans ce restaurant des Trois Faisans. Et c'est un déclic pour elle qui va devenir ensuite une célèbre écrivaine gastronome. Je vous incite à découvrir ses livres. On a une Maria Dijon, on a le fantôme de Bria Savarin où elle y raconte ses deux repas mémorables aux Trois Faisans.
On continue la visite. On passe dans le troisième temps que vous avez imaginé au sein de ce pôle culturel de la cité de la gastronomie et du vin de Dijon. En fait, on entre dans une salle de restaurant, les tables sont disposées, on a un comptoir, un bar. Derrière, de l'autre côté, on ira, j'espère. De l'autre côté, c'est la cuisine, bien sûr. Et là, en fait, l'idée, c'est de pénétrer dans les différents, dans les têtes des différents métiers, c'est ça, du restaurant ?
Oui, on a souhaité mettre en avant les différents acteurs du restaurant et on les a mis en scène à travers des témoignages fictifs. Voilà, ils sont joués par des comédiens.
C'est aujourd'hui ça, c'est pas historique.
C'est pas historique, même si on a des petites anecdotes historiques sur chaque métier.
Par exemple.
Alors par exemple là, alors on arrive au niveau du témoignage de la serveuse, mais on a une petite anecdote plus masculine puisque on a vers 1907, même précisément en 1907, certains serveurs qui se sont mis en grève, qui ont fait une grève de la moustache. Ils n'avaient pas le droit de porter la moustache et ils ont souhaité pouvoir porter cet attribut de virilité et de pouvoir porter cette moustache en tant que serveur.
Ils l'ont obtenu ?
Oui.
Qu'a-t-elle le cas ? Il reste deux espaces dans cette exposition « Et si on allait au resto ?» que vous avez d'ailleurs construite non seulement comme un espace théâtral, c'est toute une mise en scène que vous montrez ici, et d'ailleurs c'est toute une mise en scène que vous avez faite également, qui nous plonge dans le restaurant, mais vous l'avez aussi construite en cinq temps, comme cinq services, de l'apéritif au dessert. Nous en avons fait trois, il en reste deux, donc l'espace fromage, l'espace dessert, comment les avez-vous conçus ?
L'espace fromage, c'est celui où on peut s'attabler à un banquet. On est accueilli par des animaux un petit peu spécialistes de nos comportements humains au restaurant, puisque c'est vrai que le restaurant, c'est un lieu où s'expriment à la fois des comportements assez intimes, tout en étant dans un lieu public. Alors, on y décrit notamment les scènes de, par exemple, de clients qui viennent tout seuls au restaurant, ceux qui viennent entre amis, entre amoureux, un repas d'affaires, mais aussi le restaurant, c'est aussi le lieu du repas gastronomique et notamment l'occasion d'un anniversaire, celui des 80 ans de notre grand-mère, où elle a invité toute sa famille, et notamment ses petits-enfants, pour leur transmettre aussi le goût de cette gastronomie, du bien manger, du bien boire. De partager des moments conviviaux, parce que c'est vraiment ça, finalement, aussi le repas gastronomique. Et là, cette scène-là est décrite par une grand-mère orque, parce que chez les orques, en fait, on a les trois générations des petits-enfants à la grand-mère qui peuvent se cohabiter, ce qui est assez rare. Et en fait, les grand-mères sont là aussi pour transmettre, les grand-mères orques, transmettre leurs connaissances sur les lieux riches en poissons. Elles vont aussi s'occuper de leurs petits-enfants et de leur montrer comment bien manger.
Et puis de fait, le restaurant est en constant renouvellement, en constant changement, en constante transformation. Et le dernier espace est effectivement un espace consacré au restaurant en mouvement, un restaurant qui est confronté à un certain nombre de défis. Lesquels, essentiellement, qu'est-ce le cas ?
Alors actuellement, les défis sont à la fois sanitaires, on l'a vu avec la crise Covid, et environnementaux, et notamment énergétiques, mais aussi démocratiques et sociétales, on va dire. C'est vrai que on a par exemple Thierry Marx qui va nous parler de tous les enjeux liés aux crises énergétiques, comment bien utiliser aussi l'eau, les produits, comment mettre un peu plus de végétaux dans les assiettes et moins de viande qui sont assez énergivores. Donc, en fait, les cuisiniers sont sans cesse en train de réinventer aussi sa manière de cuisiner, mais aussi de s'approvisionner et d'utiliser l'énergie qu'il a à sa charge aussi. Et puis, on a aussi ce défi aussi plus social, de genre aussi, c'est-à-dire que les femmes sont très présentes depuis toujours dans les cuisines, comme petites mains, mais sur des postes à responsabilité, elles sont beaucoup moins nombreuses. Alors, on connaît plus chacun les mères lyonnaises qui ont eu 3 étoiles, comme la mère Brasier, mais il a fallu attendre assez longtemps avant qu'il y ait à nouveau des femmes étoilées. Et sans être étoilées, il y a quand même, heureusement, de plus en plus de femmes chefs qui arrivent aux commandes de restaurants, et avec une autre vision aussi de comment gérer leur brigade.
Et on apprend aussi, pour terminer cette exposition, un certain nombre de choses sur le défi du numérique. Le restaurant, aujourd'hui, c'est aussi un restaurant à l'heure du numérique. Vous donnez un certain... Il faut que je tourne la tête parce que c'est penché. Vous donnez un certain nombre de chiffres qui sont assez éloquents. Hein. 70% des restaurants possèdent un compte Instagram. 50% des Français réservent leur restaurant sur Internet. 80% des Français décident de leur restaurant grâce aux informations du web, pour ne citer que quelques chiffres. Vous avez trouvé où ces chiffres ?
Alors, à la fois sur les sites de l'INSEE, mais aussi d'Alioz, qui génère beaucoup effectivement de statistiques sur l'actualité des restaurants et enfin de la restauration plus globalement. Et c'est vrai que parmi ces évolutions, il y a aussi le client qui est confronté à devoir choisir parmi une offre très large de modes de restauration. Et les restaurateurs et cuisiniers sont confrontés au fait de devoir alimenter aussi les réseaux sociaux et de devoir être de plus en plus présents, même s'ils ne sont pas toujours à l'aise dans ces réseaux-là. Et donc, c'est vrai que c'est un enjeu pour ces lieux de restauration.
Mais dites donc, quel tel le cas ? Beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances dans cette exposition. Mais on mange quand ? On mange quoi ? On déguste un peu ?
Heureusement, vous vous trouvez à la Cité de la gastronomie et du vin. Donc, il y a tout un village avec différents lieux de restauration pour manger ou sur le pouce ou à tabler. Donc, voilà, je vous invite à aller dans le village pour découvrir les différents acteurs de cette cité.
Bon, on va suivre vos conseils. De fait, dans cette exposition, il y a des moments où, quand la visite est guidée, il y a quelques instants de dégustation, hein, des petits moments de bouche quand même.
Oui,
aussi.
On a une visite guidée qui permet d'avoir 5 petites bouchées et de les déguster au sein de l'exposition même.
Ouais. Merci beaucoup, Cathel Decar.
Merci, Caroline. Bonne visite de la cité.
Merci beaucoup. La retour dans le hall de la Cité de la gastronomie. Je suis mon guide Julien Jacotto, qui m'emmène dans le village gastronomique, conseillé donc par Cathel Decar. Et nous allons déambuler, pas dans toutes les travées de ce village, parce que c'est immense, mais peut-être à la rencontre de quelques commerçants, puisque le village gastronomique est essentiellement fait de commerce, avec le moulin, qui est l'artisan boulanger et meunier, le dressoir, avec les arts de la table, la gloriette, qui est le bar à douceur, le charton, bar à jus, fruits et légumes, la planche, fromage et épicerie fine, le bio, boucherie et charcuterie, l'écaille, poissonnier et écaillier, la librairie gourmande et le manège à moutarde, Dijon oblige. On va rencontrer le directeur du village gastronomique pour commencer. C'est peut-être lui qui va nous faire la visite, un petit tour de ces commerces de bouche. Bonjour Daniel Jung.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans votre village gastronomique. C'est vous qui dirigez ce village ?
Absolument. Bah, écoutez, justement, c'est un village avec ses boutiques, avec ses commerçants, avec ses villageois. Et tout est là pour le plaisir de la bonne chère. On y trouvera, on va se promener, on va y trouver tout un tas de produits. Fidèle notamment à la Côte d'Or et à la Bourgogne, on essaye de faire vraiment du 100% local.
La cité a ouvert il y a 2 ans maintenant, en mai 2022. Elle s'apprête à fêter donc son 2e anniversaire. Quel est le bilan ? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait ou est-ce que vous trouvez que les Dijonnais et les... pas les étrangers, mais presque, hein, en dehors de Dijon, disons, pour ne pas dire touristes, ne sont pas au rendez-vous.
Eh bien, écoutez, on a fait 1 400 000 entrées depuis l'ouverture de la cité, ce qui est plutôt un bon bilan en soi. Évidemment, on cherche à capter beaucoup plus de locaux. On a vraiment envie, et c'est notre objectif, que les Dijonnais s'approprient cet endroit, ce lieu, et qu'ils le considèrent comme un véritable endroit de loisirs, de plaisir, où on vient régulièrement ou faire son marché, ou venir à des expositions, ou alors aller au cinéma, ou alors effectivement acheter des produits ou consommer sur place. Donc on essaye effectivement maintenant développer cette clientèle locale qui, pour nous aujourd'hui, n'est pas suffisamment représentée.
En travaillant avant de venir vous voir, avant de venir vous rencontrer, j'ai lu quelques critiques qui avaient été formulées à l'occasion du premier anniversaire de la cité. Parmi ces critiques, le fait que c'est cher, trop cher pour les Dijonnais, le fait que ça ressemble à un attrape-touriste, le fait que c'est une coquille vide. Que répondez-vous, Daniel Jung, à ces critiques ? Et est-ce que un an plus tard, vous avez progressé selon vous ?
Bien écoutez, on a pris ces critiques de plein fouet. Effectivement, c'est jamais très très agréable, mais malgré tout, la critique, il faut qu'elle soit constructive, il faut qu'elle nous serve, il faut qu'on écoute, et il faut surtout qu'on réponde après par des actes, tout simplement. C'est ce qu'on a fait. On a revu bon nombre de nos prix, on a revu bon nombre de nos produits aussi, de manière à baisser sensiblement les prix, tout simplement. Donc on a écouté tout ça. Moi je comprends très bien le fait de dire que c'est cher. Effectivement, on a certains produits qui sont des produits de qualité, qui sont des produits rares, qui peuvent être des produits donc par conséquent chers. Mais on a aussi des produits de très très bonne qualité, à des prix qui sont tout à fait abordables. Les gens qui reviennent aujourd'hui, et ça c'est un premier constat intéressant, nous disent finalement, on s'est trompé, c'est pas si cher que ça. Par contre, la qualité est toujours là. Et c'est ce rapport sur lequel je travaille énormément, c'est ce rapport. Alors, au-delà du rapport qualité-prix, moi, je travaille sur un rapport de plaisir-prix. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est que le plaisir soit au rendez-vous à un prix pour lequel les gens sont prêts à payer.
Quand vous dites « on a baissé les prix », dans une époque où les prix ne cessent d'augmenter, en particulier les prix à la consommation, les prix des produits alimentaires ont augmenté ces 2 dernières années, c'est qui on ? Comment avez-vous réussi à baisser les prix ?
Tout simplement en regardant un petit peu notre offre, en écoutant un petit peu les gens sur ce qu'ils avaient envie de consommer, sur ce qu'ils avaient tout simplement envie d'y trouver. On a fait des choses qui sont beaucoup plus proches finalement de leurs habitudes alimentaires. Je pense par exemple et notamment à l'ouverture de ce restaurant Meurette et Percier, qui est un restaurant totalement bourguignon, même dijonnais j'ai envie de dire, avec des produits mais extrêmement simples, mais par contre ils sont très très bien travaillés, très bien mis en valeur et donc complètement attractifs pour nos clients. J'ai l'habitude de dire qu'en fait c'est un luxe accessible. Et c'est ça qui est important, c'est ces mots qu'il faut retenir. Le luxe c'est simplement de profiter. Et accessible, c'est de payer pour ce qu'on consomme, c'est-à-dire des prix qui sont tout à fait en rapport avec ce qu'on propose.
Bon, je vous prends au mot, on y va.
On y va.
Alors, peut-être on peut commencer par ce qui est en face de nous, qui est le manège à moutarde. Évidemment, on est à Dijon, on est obligé de passer par le manège à moutarde.
Bien entendu, alors c'est complètement emblématique, évidemment. Et vous allez voir que dans ce manège à moutarde, on ne trouve pas que des moutardes de Dijon. On trouve aussi
Allons-y.
Des moutardes de partout en France.
Ah, très bien. Bonjour. On vient voir, sinon déguster, vos moutardes, qui ne sont pas que des moutardes de Dijon, m'a-t-on dit.
Tout à fait. Nous travaillons avec 2 producteurs locaux, Reine de Dijon et de Montfalo, mais également Maupommerie, qui se situe à Meaux, à côté de Paris.
C'est quoi la différence entre toutes ?
Alors, chez Meaux, c'est principalement de la moutarde en grain. Après, chez Reine de Dijon et de Montfalo, c'est plutôt de la moutarde fine.
Alors juste, je dois quand même dire que c'est très très beau, hein, parce que ce qu'on voit disposé tout autour de vous d'ailleurs, madame, c'est plein de couleurs, c'est plein de formats différents. Ça donne assez envie quand on aime la moutarde, évidemment.
Bien évidemment, on essaie toujours d'en trouver une qui puisse plaire à tout le monde.
aux noix, au curry, aux cinq plantes, au piment d'Espelette, à l'ail et au romarin, à la crème de cassis, à l'ancienne, la moutarde de Dijon, toute simplement, toute simple.
La classique.
La moutarde verte à l'estragon, au vin blanc, au pain d'épices.
Typiquement local, celle-ci.
C'est pas mal, ça. Tout elle a aussi aux noix, au cassis, au pinot noir, à la provençale. Si on essayait le pain d'épices.
Donc là, c'est une moutarde en grain. Donc de base, elles sont moins fortes. Mais chez Edmond Fallot, elle a quand même un petit piquant.
C'est très difficile de décrire. L'Agnelle Young, vous la connaissez, la moutarde au pain d'épices?
Absolument. Oui.
Alors, quel mot vous utiliseriez?
Ah ben, elle est douce, elle est suave, elle a ce petit goût d'épices quand même qui relève le goût de moutarde, qui convient très bien avec des viandes, par exemple. Si vous faites une cuisine un petit peu exotique, par exemple, ça va très très bien avec, forcément.
Vous en parlez très bien. Merci. On sort par l'autre côté. En face de nous se trouve la librairie gourmande, 100 mètres carrés de librairie. Et vous nous emmenez vers...
La fromagerie. Je vais vous présenter ce magnifique plateau de fromage qui représente tous nos produits français et notamment, bien entendu, les fromages de la région qui sont riches, qui sont bons, qui sont très différents les uns des autres. Voilà, vous allez rentrer dans un environnement qui est, pour ma part, je trouve assez exceptionnel.
On est accueillis merveilleusement par les fromages. Voilà. La vue et tous les sens sont en éveil, y compris l'odorat.
Bien sûr.
Ça sent bon le fromage. Bonjour monsieur.
Bonjour madame, bienvenue.
Merci beaucoup. Alors monsieur Young me disait que vous aviez notamment une très grande gamme de fromages locaux, de fromages dijonnais. Vous nous en présenteriez quelques-uns?
Avec plaisir. Donc déjà on a une centaine, 120 références dans la boutique. On met en avant surtout les laits crus. On a à peu près plus de 80% de la gamme qui est au lait cru et plus de 60% des fromages qui sont fermiers. Et ça garantit notamment, quand vous entendez fermier, c'est que tout le lait vient de la même ferme. Donc ça garantit notamment la rémunération du producteur, qui est un peu un débat d'actualité. Et dans les petits coups de cœur qu'on a notamment de la région, je vais vous faire découvrir le fermier au Chablis, qui est un fromage qui avait disparu et que Ludovic Bizot, qui est meilleur ouvrier de France, qui nous conseille sur la boutique, quand il a eu son titre, il a décidé de participer au patrimoine fromager en faisant en sorte que ce fromage ressorte de nouveau, qui était un peu sa Madeleine de Proust, qu'il mangeait quand il était petit avec sa grand-mère. Et donc c'est le fromage que vous voyez juste là, en fait, qui est, donc comme son nom l'indique, fermier au Chablis. C'est un petit fromage qui est affiné. Pendant son affinage, il est lavé au Chablis. Parce qu'en Bourgogne, on aime bien laver les fromages avec un peu d'alcool. Comme les poisses lavées au Mar de Bourgogne, on a des fromages lavés à la ligotée, et voilà.
Les fromages bourguignons sont tous des fromages typés pois, c'est-à-dire assez costauds, ou il y en a des plus doux?
Il y en a des plus doux. Hein. L'avantage, c'est que dans le monde du fromage, et notamment les fromages bourguignons, on en retrouve pour tous les goûts. Donc fromage de caractère, quoique les pois, j'ai tendance à dire que ça sent néoforme et beaucoup moins en bouche.
C'est vous qui le dites.
Non, on n'a pas que des fromages de caractère, mais on en a quelques-uns. Il y a aussi l'éclat de nuit, qui lui est un fromage de la grande fromagerie de Lain, qui est lavé à la ligotée, une nouvelle fois encore avec de l'alcool. Mais on en retrouve pour tous les goûts. Hein. Le petit brochonnet qui vient de la fromagerie Gaugry. Donc pareil, on essaye de travailler avec les grandes fromageries de la région, Gaugry, Lincé et Delain. Et donc le but, c'est vraiment de mettre en avant tout le monde, les grandes fromageries et les petites fromageries artisanales.
Vous savez quoi? Il est midi et demi. Je crois que je vais m'attabler avec une petite planche, un peu de fromage et qui sait, un verre de vin. On peut un verre de vin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Daniel Young.
Mais avec grand plaisir.
Bon appétit.
Merci, bon appétit.
Merci à Julia Jacotto de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon. Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Merci à Colin Gruel pour la réalisation et à notre technicien du jour. Nous vous souhaitons tous et toutes un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.